Le Lab U.
Les bibliothèques universitaires et Radio U présentent
Histoire de ma thèse.
Quelles recherches mènent les doctorants ? Pourquoi écrivent-ils une thèse ? Est-ce simple, enthousiasmant ou difficile de s'atteler à un travail de plusieurs années ? Aujourd'hui, Pierre Chartier, doctorant à l'école doctorale Arts, Lettres, Langues et au laboratoire HCTI, Héritage et construction dans le texte et l'image, nous présente son sujet de recherche, les raisons de ce choix, sa méthode de travail et ses premiers résultats. Le sujet de la thèse, comment parle-t-on de la violence sur Internet ? Le cas de la loi Travail sur YouTube. Première question, pourquoi avez-vous décidé de vous inscrire en thèse à l'issue d'un master ?
Ça fait suite à une reconversion, on va dire, un peu professionnelle, parce que j'avais arrêté mes études très tôt, et voilà, je travaillais, et j'ai décidé de reprendre les études, donc de passer le bac, et ensuite donc d'aller à la fac. Et là, j'ai commencé à découvrir, on va dire, la recherche scientifique, et ça m'a passionné, notamment en linguistique. Et donc, voilà, ça, le cheminement s'est fait, un master recherche, et puis ensuite, tout ça pour aller en thèse et poursuivre ce parcours, quoi.
C'était une dynamique. Déjà, le master vous a commencé à initié à la recherche, quoi. Commencé à vous initier à la recherche et vous avez voulu continuer.
Exactement, ouais.
Et alors, le sujet, il s'intitule « Comment parle-t-on de la violence sur Internet ?» Le cas de la loi Travail sur YouTube. Pourquoi choisir donc Pierre Chartier choisit ce sujet, déjà avant même d'être un doctorant.
En fait, ça a commencé déjà en master, mais deux mémoires en fait portent déjà sur le sujet de la violence protestataire. Et en fait, ça a commencé en 2016 pendant donc les manifestations contre la loi Travail, auxquelles j'ai participé. Et donc, ça m'a permis de voir de l'intérieur le traitement médiatique et les discours qui circulaient sur ce sujet-là. Ça m'a permis de les interroger de l'intérieur. Et donc, mon premier travail a été sur le terme casseur, puis après sur comment on parle de la violence protestataire dans les discours médiatiques. Et au fil de ces recherches, en fait, j'ai vu qu'il y avait un impensé, entre guillemets, un impensé scientifique sur la violence d'un point de vue discursif, dans le discours. Et donc ça m'a donné presque mon sujet tout près, et notamment sur les réseaux sociaux, car aujourd'hui, YouTube étant le site le plus visité au monde, l'espace commentaire étant un espace social en soi, et pareil, qui est très peu étudié, et notamment d'un point de vue du discours, mon sujet était entre guillemets tout trouvé. J'avais le thème, la violence protestataire pendant la loi Travail, et le lieu, le médium, qui est les commentaires YouTube, qui sont très peu étudiés. Donc les deux ont matché, en fait.
D'accord, c'est un constat qu'il y avait un blanc, là, dans la recherche.
Exactement.
Ça, c'est l'idéal.
C'est plutôt, c'est vrai que c'est l'idéal, ouais.
Voilà, une fois que vous avez un sujet, donc la violence sur Internet, à partir d'un cas, la loi Travail sur YouTube, comment faire pour en faire un sujet universitaire, c'est-à-dire un sujet de doctorant dans le cadre d'une discipline, d'un laboratoire, et même d'une section universitaire ?
Oui. Pour ça, on a différents outils, des méthodologies. On s'inscrit en fait dans un parcours intellectuel qui nous précède déjà, en citant des auteurs, en lisant beaucoup de littérature. Bien sûr, l'intérêt de la thèse, et c'est même fondamental pour un travail de thèse, c'est d'amener une nouveauté dans le domaine dans lequel on s'inscrit. Après, il faut ramener sa propre pensée dans le sujet et dans la thématique pour que la thèse puisse avoir une valeur scientifique.
D'abord, vous héritez de tout ce qui
est vraiment
un corpus théorique.
Ouais. Et ensuite, c'est l'application de méthodologies, que ce soit des méthodologies préexistantes ou alors la mise en œuvre et la création de méthodologies propres quand elles n'existent pas de fait.
D'accord. Bon, le sujet pourrait être vaste, encore que vous l'avez déjà délimité, loi travail, YouTube,
oui.
En fait, il n'est pas si vaste. Ouais.
De mars 2016 à décembre 2016, parce qu'en fait, le problème des
Comment vous l'avez délimité, Comment vous l'avez délimité
parce En fait, que là, j'ai pris en fait, la date de la première manifestation et la date de la dernière manifestation. Et ensuite, j'ai brossé un peu large pour la fin, parce que la dernière manifestation, c'était début septembre 2016. Mais il y a énormément de commentaires qui ont continué à être créés, sur les réseaux et dans les médias sur la loi Travail. Et donc, j'ai été jusqu'à la fin de l'année, et c'est complètement arbitraire, mais le choix d'une date et le balisage d'un corpus est toujours arbitraire.
Vous avez pris un an, c'est ça ?
En gros, de mars à décembre. Parce qu'en fait, avant mars, il n'y avait pas de loi travail, donc c'était pas intéressant. Et ensuite, décembre, c'était vraiment pour arrêter, parce que j'ai encore, sur des vidéos de la loi travail, des commentaires, mais qui sont liés, par exemple, aux gilets jaunes.
Ah oui.
Donc, en fait, ça s'actualise toujours et ça ne s'arrête jamais sur Internet. Un corpus ne s'arrête jamais. Et donc, c'est une spécificité, d'ailleurs, du médium, quoi.
Non, mais un corpus atteint sa taille critique dès lors que son évolution n'amène pas forcément de nouveau.
Voilà, c'est ça. Ouais. Ou alors ça amène, mais ça varie. Parce que voilà, par exemple, là, ça m'amenait vers les gilets jaunes.
Oui, d'accord.
Et peut-être l'héritage qu'ont les gilets jaunes, ou comment ils se la politisation et l'accès à la violence protestataire comme moyen d'action en s'aidant sur YouTube. Mais là, c'est complètement un autre sujet. Et je pourrais y arriver, en fait, mais ce n'est pas mon sujet.
Ok, très bien. C'est bien de voir, de borner. C'est difficile en thèse. Hein, il y a aussi forcément des difficultés techniques. Enfin, je me mets à votre place. Vous voulez récupérer un corpus sur un an, sur une chaîne quand même très, très alimentée, sur un sujet qui a fait l'objet de beaucoup de discussions et de vidéos. Comment, enfin, faites pas tout un détail, mais l'ingénieur, comment il travaille là pour récupérer le texte et en faire un corpus exploitable?
Ah là là. Ça m'a pris un an et demi, donc la première année et encore 6-7 mois, on va dire, de thèse. Donc voilà, j'ai commencé ma deuxième année là. Donc vous voyez qu'à peu près, voilà, pour l'instant, la grande majorité de mon travail de thèse, ça a été la mise au point de ce corpus. Et donc pour ça, je m'aide de logiciels, notamment de web scrapping. Donc ce sont des logiciels qui vont chercher dans le code des pages Internet les informations et ça va automatiser en fait le processus d'aspiration des données. Donc malheureusement, le principal problème que j'ai eu, c'est que c'est YouTube. YouTube appartient à Google et Google, les données de Google, c'est leur argent en fait. Et donc j'ai été bloqué plusieurs fois par Google dans mon travail de thèse, mais automatiquement, hein, c'est pas, ils se sont dit « Ah, il y a Pierre Chartier, bien sûr que non !»
Hein. Bien sûr.
Mais en fait, c'est qu'ils ont vu qu'il y avait un logiciel qui, de façon automatique, aspirait leurs données, et donc ils les bloquent. Et donc le principal problème, et le vrai problème que j'ai rencontré, c'est là. Et donc j'ai dû, on va dire, passer par plusieurs logiciels pour avoir plusieurs signatures différentes et pour pouvoir avoir un corpus cohérent. Et donc notamment à l'aide de scripts, enfin voilà, de petits logiciels que j'ai dû bidouiller moi-même pour réussir à arriver avec un corpus qui était cohérent, qui était complet aussi, parce qu'il y a certains logiciels qui vont prendre que les informations, par exemple les pseudonymes, les dates, il y en a d'autres au contraire. Moi, je voulais vraiment avoir tout et surtout garder ce format d'arborescence qu'on retrouve sur YouTube, ça veut dire on a un primo commentaire et deux, trois, et hop, et là, il y a des sous-commentaires qui sont en réponse, et ça, il y a très peu de logiciels qui le font. Donc il a fallu que je garde aussi la structure. Et...
Voilà, vous avez réussi à garder la structure.
Donc là, voilà. Là, moi, en fait, j'ai réussi à atteindre mon but, c'est d'avoir toutes les informations possibles et inimaginables que j'avais besoin et la structure.
D'accord.
Mais ça m'a pris, vous voyez, plus d'un an, quoi.
Ah, j'imagine bien, oui. Et donc là, vous avez votre texte, en fait, structuré.
C'est ça.
Et alors, comment vous allez, le discrétiser, en faire des données?
Oui.
Parce qu'on a du texte, on en fait des données exploitables pour peut-être aller vers des indicateurs, voire des mesures.
On s'aide surtout donc de logiciels qui nous permettent de... En fait, là, moi, je suis rendu à environ 33 000 commentaires. Donc, c'est une bonne taille de corpus. C'est pas encore... bon, voilà, il y en a qui en étudient 90 000, 100 000 commentaires. Donc, 33 000, ça reste quand même raisonnable, on va dire, au niveau de la recherche, puisque grâce au logiciel, justement, il y a très peu de limites. Maintenant, on peut vraiment étudier, on pourrait presque étudier tous les commentaires de YouTube depuis que YouTube existe. Et donc, ça reste quand même... mais c'est une volonté de ma part, parce que... En fait, le quantitatif, il est donc voilà, le fait d'analyser des données d'un point de vue statistique, d'un point de vue purement numéral, j'ai envie de dire, ça a un intérêt pour faire du tri, pour objectiver. En fait, ça nous permet de prendre de la distance par rapport à son corpus, parce que quand on lit tous les commentaires les uns après les autres, on a du mal à avoir des relations, des fois, des effets d'écho qu'il peut y avoir entre le 116e commentaire et le 23 millième commentaire. Mmh.
Qu'est-ce que vous cherchez dans ce corpus, hein?
Donc là,
qu'est-ce qui doit émerger de...
Donc ce qui m'intéresse en premier lieu, ça va être les termes récurrents. et notamment dans la dénomination des violences et des personnes qui font de la violence protestataire comme moyen d'action politique. Et donc, à partir de là, ça va être donc, les termes seuls qui vont se répéter. Voilà, par l'exemple typique, c'est casseur, ou de l'autre côté, flic. Et je vais regarder comment c'est distribué. Donc, est-ce que, par exemple, c'est, je retrouve ça dans tout mon corpus, ou est-ce que ça va être que sur certains moments, et si oui, et ben, alors pourquoi à ce moment-là, on va plutôt parler de casseur et pas là ? Donc, je vais regarder la distribution des termes au sein du corpus, et après, je vais encore un peu dézoomer, on va dire, et je vais regarder plutôt d'un point de vue phrastique. Donc, je vais regarder des groupes de mots, des syntagmes qui se répètent, et par exemple, ça va être, celui que j'ai, qui est beaucoup, c'est « Tout le monde déteste la police ». Et ben, parce que c'est un slogan qui était énormément dit pendant les manifestations. Et donc, je vais regarder…
– Vous voyez la percolation du mot d'ordre
dans… Voilà, ouais, et ben, en fait, pour montrer aussi l'interdiscursivité entre ce qui est dit, le discours qui est tenu dans les vidéos et les discours qui sont tenus dans les commentaires. Et ça, c'est un de mes axes de recherche. Je veux voir dans quelle mesure ce qu'il y a dans les vidéos peut influencer ce qu'il y a dans les commentaires. Et par exemple, ça va être ce genre « tout le monde déteste la police », s'il est arrivé, on va dire, au mois de mai, ça, et ben, s'il n'existe pas avant dans les commentaires, je peux supposer que c'est bien parce qu'on l'entend dans les vidéos qu'on commence à le retrouver dans les commentaires. Ou en tout cas, c'est parce qu'on le retrouve dans les manifestations qu'on le retrouve dans les commentaires. Voilà, c'est par exemple ce jeu de… je vais analyser ce jeu d'interpénétration des discours les uns avec les autres. Et,
voilà. En fait, j'ai plein d'autres questions, mais je vois le temps qui tourne. Ouais, y a quand même un élément aussi méthodologique sur la dynamique, parce qu'à un moment, vous voyez un phénomène qui est vivant, donc qui bouge.
Oui, c'est ça.
Comment faire pour saisir une dynamique?
Je pense que c'est un des principaux problèmes, en fait, dans l'analyse. Pour avoir une dynamique, déjà, il faut avoir plusieurs moments donnés, analyser plusieurs moments donnés pour voir l'évolution. En fait, on n'a jamais vraiment la dynamique. Voilà, c'est exactement, c'est plutôt ça. Ça va être… Parce qu'en fait, on n'a jamais la dynamique en soi, on a plutôt les effets de cette dynamique-là, ce qui transparaît dans le discours. Et bah, par exemple, voilà, c'est tel… au début, on va plutôt parler de manifestants violents et 6 mois après, on va plutôt parler de casseurs et manifestants violents ne sera quasiment plus présent dans le corpus. Bah, la dynamique, on peut voir la dynamique en discours.
D'accord, et là, vous pouvez voir des interactions entre ce qui se passe, la façon dont on s'est filmé, ce qui est dit et l'évolution des identités telles qu'elles se…
Et puis, bah, faut pas oublier que comme tous mes médias, ça s'inscrit en fait dans une société. Et ce n'est pas forcément le lien avec les vidéos, c'est aussi le lien avec les discours politiques, discours médiatiques, qu'il faut prendre aussi en compte. Et c'est pour ça que je peux m'appuyer notamment sur mes 2 travaux de master pour essayer d'analyser ça et amener quelques hypothèses, à défaut de pouvoir y répondre. Mais déjà, ça fait des hypothèses.
Suppose derrière d'avoir aussi une image assez précise, comme tout ce qui s'est passé en un an.
C'est ça.
Tel que c'est raconté dans la presse, tel que c'est raconté par les acteurs, etc.
Exactement, ouais.
Ouais, c'est du boulot.
C'est du boulot. Bah, c'est une thèse. Hein.
Et est-ce que… le temps tourne trop vite, en fait, là. Excusez-moi. Oui, est-ce que déjà, à ce stade, vous pouvez vous… non pas satisfaire, vous ne pouvez jamais être trop satisfait de soi, mais vous prétendre à des résultats que vous pouvez présenter dans un colloque, voire à une réunion de doctorants, etc.
J'ai commencé…
Quels sont ces résultats?
Oui, j'ai commencé avec un colloque à Paris, Saint-Denis, où c'était sur d'un point de vue méthodologique. Comment justement, ben voilà les questions, comment on analyse des commentaires YouTube, est-ce que c'est un espace privé, un espace public, donc des données, et donc j'ai commencé à répondre à ces questions-là, et en fait ça sera sûrement mon premier chapitre de thèse, ça va être sur ces questions-là, les questions d'anonymisation aussi, est-ce qu'on doit anonymiser, est-ce qu'un pseudonyme est une identité personnelle, et techniquement au sens de la CNIL, oui. Et donc ça veut dire qu'on doit anonymiser, mais comment on anonymise et surtout quelles données on perd lorsqu'on anonymise. Et donc comment restituer quand même la valeur des pseudonymes, parce qu'un pseudonyme ça dit beaucoup sur l'identité qu'on veut donner de soi, sur l'éthos qu'on construit. Donc comment analyser ça et que ça soit présent dans le travail de thèse, mais sans pour autant divulguer les pseudonymes en question. Voilà, c'est sur ce type de données, de réflexion que j'ai communiqué jusqu'à présent et c'est là où je suis le plus avancé dans mon travail de thèse, finalement, plus que sur l'analyse propre.
Ouais, mais il y a une telle composante méthodologique et d'outils, en fait. Et donc ça, vous pouvez le vendre.
Exactement.
C'est bien.
C'est un
bien.
Peu l'idée.
Donc, s'il y a des preneurs. Un an de cambouis. Tout de suite, on se projette sur la suite. Que devient déjà en spéculant Que devenez-vous après votre thèse, après cette thèse donc brillante, avec à la fois un discours sur quand même des choses très importantes, la violence, c'est éminemment, enfin c'est très important là, de comprendre la violence, et des éléments méthodologiques très forts aussi que vous avez développés. Comment vous imaginez la suite dans le meilleur des mondes, et puis peut-être dans un monde plus difficile après.
Bah, dans le meilleur des mondes, c'est à la suite de ma thèse, je passe ma qualification et on vient, plusieurs grandes universités viennent me chercher, me disant qu'ils ont besoin de moi et de tous mes travaux. Donc là, on rêve, hein, très clairement. Non, ça va être plutôt se battre voilà, pour avoir un poste, sûrement en passant par un post-doc et puis par différents statuts. On va dire le plan B, ça serait plutôt de travailler dans le privé, notamment dans des boîtes de consulting, dans des boîtes d'analyse de données, justement, voilà, de veille sur les réseaux sociaux, notamment grâce à la maîtrise que j'ai acquise des logiciels pour ensuite voilà, donner à telle collectivité des conseils sur qu'est-ce que les gens attendent, faire des sondages, voilà, ce genre de choses-là. Mais c'est clairement un plan B que je... Que je vais repousser aussi loin que possible, parce que c'est pas ce que j'ai envie de faire. En fait.
D'accord, oui. Ben, c'est un plan B. Faire 5 minutes de pub là, sur les doctorants. Le doctorant, en 3 ans, il travaille, il apprend des choses, des logiciels, des méthodes, des précautions, il trouve des partenaires, etc. C'est pas rien. Enfin, c'est une mise à l'épreuve assez gigantesque, quand même. Donc, en soi, à mettre ça en œuvre après.
C'est vrai qu'en France, la thèse, elle n'est pas énormément reconnue en tant que quelque chose comme un diplôme professionnalisant. Mais notamment aux États-Unis ou au Canada, rien que le fait d'avoir une thèse, même si c'est, on peut trouver du boulot, même si ça n'a aucun lien avec notre sujet, parce qu'en fait, ils vont se dire, mais ils ont appris, et ça veut dire que cette personne-là, elle sait gérer des projets, elle sait organiser des réunions, elle sait utiliser des logiciels, elle sait être flexible sur les horaires, etc. Et c'est pas vraiment une bonne chose qu'on pourrait parler des conditions de travail des doctorants. Et donc, c'est valorisé, et ça, c'est une chose qui n'est pas vraiment prise en compte en France.
Puis on peut passer aussi
en tout cas, ça change.
Puis vous pouvez aussi aller dans le privé et après retourner.
Et revenir après dans le public, exactement.
Ça se fait.
À la fac.
Oui.
Les questions du public.
Je vais te demander les vidéos sur lesquelles tu travailles. Enfin, tu travailles sur les commentaires des vidéos, mais est-ce que c'est seulement des vidéos de privé, par exemple, de personnes qui ont filmé eux-mêmes des manifestations, ou est-ce qu'il y a aussi des vidéos de presse, par exemple, des reportages, des choses comme ça ?
Eh ben, il y a les deux. Il y a clairement les deux. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que les vidéos donc, de médias plus traditionnels, j'ai Le Monde, il y a France Télé, France Info, France 24, ben, en fait, elles sont très peu commentées. Très peu suivi généralement. Ça va être plutôt les vidéos de ce qu'on peut appeler le riot porn. Donc vraiment, c'est vraiment au cœur des émeutes, au cœur des manifestations, au cœur des violences. C'est celles-là, généralement, qui font le plus de commentaires et le plus de vues. Et ça, généralement, c'est des personnes privées ou alors qui sont un peu entre les deux. Ça va être des journalistes indépendants qui se sont spécialisés dans les manifestations. Je pense à Taranis News, notamment. Et donc ça arrive de plus en plus qu'on est un peu entre les deux.
D'autres questions ?
Bonjour, merci de votre propos. J'ai une question extrêmement basique. Qui est-ce qui finance ?
Ah.
Eh bien, c'est moi. Voilà. Donc je suis chargé de cours à l'université. Après, c'est des fonds personnels. Voilà.
C'est une question de logistique très importante.
Aujourd'hui, en fait, les contrats doctoraux, c'est là une grande minorité de doctorants qui sont en contrat doctoral en sciences humaines. Là où en sciences dures, entre guillemets, là, c'est plutôt la norme. Et ça passe notamment beaucoup par des labos privés, des contrats 50-50. En sciences humaines, c'est la grande majorité des doctorants sont sur des fonds privés. Soit ils travaillent à côté... soit ils ont des fonds personnels. Et je fais partie de ceux-là.
Ça fait partie des compétences des doctorants de gérer un budget étroit.
Ah ça,
pour mener un travail ambitieux, par contre.
Moi, j'avais une question sur les commentaires. Parce que moi, je sais que je lis très rarement les commentaires parce que souvent, ça mène nulle part et des fois, c'est hyper violent. Je voulais savoir, du coup, comment tu faisais pour prendre du recul sur les propos que tu peux lire aussi.
Je vais souvent en pause café. En fait, ça, c'est vraiment un des... C'est, je crois que c'est un des aspects les plus durs de mon travail et c'est celui que je ne pensais pas, auquel vraiment j'avais pas prévu. C'est d'être confronté à la violence des propos et à la haine, en fait. Et il faut voir que sur les 33 000 commentaires, moi, j'ai pas compté, mais je dirais qu'il y a bien les 80% où c'est des gens qui s'insultent gratuitement, qui se disent les pires horreurs, mais vraiment les pires horreurs. Donc forcément... Forcément, ça demande peut-être plus de recul et plus de repos qu'un corpus, on va dire, assez neutre, ou mes précédents corpus où c'était des discours politiques, médiatiques et donc policés. Oui. Un minimum, en tout cas, parce qu'on peut quand même lire des horreurs aussi. Mais généralement, il y a moins de vulgarité, voilà, on va dire ça comme ça.
Moi, j'ai une question personnelle. Pourquoi tant de violence ? Pourquoi Internet est devenu un lieu d'expression si... Pourquoi l'audience s'exprime avec tant de force plus qu'ailleurs ? Si vous avez des réponses, je ne sais pas.
J'ai les réponses, ça va être... il y a trop peu de temps pour répondre complètement à cette question.
Bien sûr, ouais, en quelques mots.
On va dire que je pars d'un postulat qui n'est visiblement pas le même que le vôtre, c'est que pour moi, il n'y a pas plus de violence et de haine sur Internet qu'ailleurs. C'est juste qu'elle est visible de tous, parce qu'en fait, elle est inscrite... Et elle est diffusable et elle n'est pas limitée d'un point de vue espace, d'un point de vue temporel. Pour moi, en fait, les commentaires et Internet, c'est un reflet de la société. Si la société n'était pas violente, si la société n'était pas oppressive, on n'aurait pas ces effets-là sur Internet. Donc pour moi, c'est plutôt une question de...
Moi, j'avais des hypothèses sur l'anonymat, par exemple.
Alors, ça a été extrêmement étudié. Vraiment, ça a été... Est-ce que l'anonymat permet aux gens de donner libre cours à leurs pulsions les plus viles ? Et il n'y a vraiment pas de consensus scientifique.
D'accord.
Et pour l'instant, ça tendrait plutôt vers le non. Non, parce que... déjà, l'anonymat sur le net, c'est quand même pour moi, c'est une chimère. Et justement, parce que la sécurité et la surveillance sur Internet est de plus en plus forte, aujourd'hui, un pseudonyme ne protège plus la personne. Je vois par exemple sur YouTube, pour poster, il faut créer un compte. Et donc pour ça, il faut s'inscrire, il faut donner des données personnelles, une adresse mail, une adresse IP. Comme les propos tombent sous le coup de la loi, quelqu'un qui va porter plainte pour les propos, on peut retrouver la personne. Donc en fait, l'anonymat, il n'est pas réel, c'est pas un véritable anonymat. Donc,
d'accord.
Moi, je pense pas qu'on puisse dire que anonymat égale surplus de violence.
D'accord. Donc la réponse que vous faites, c'est tout simplement Internet enregistre.
Voilà, exactement. Enregistre, inscrit
les mots,
et nous donne à voir toute cette violence. Par exemple, on ne se rend peut-être pas compte, mais là, en ce moment, autour de nous, il y a des gens qui se font insulter, qui subissent des violences. Et nous, là, autour de nous, dans notre espace visible, concret, il n'y a pas. Donc, du coup, on a l'impression qu'on ne vit pas de violence et qu'elles ne s'inscrivent pas. Mais en fait, je pense que c'est plus une impossibilité pour nous de nous rendre compte de toute la violence qu'entoure la société. Et elle est traduite sur les réseaux sociaux. Et donc, c'est pour ça qu'on a cette impression de sidération quand on regarde les discours sur Internet.
D'accord. C'est le manque de police au sens policier.
Oui, clairement, oui.
Merci à Pierre Chartier, doctorant à l'école doctorale Arts, Lettres, Langues et au laboratoire HCTI, Héritage et construction dans le texte et l'image. Dans la prochaine émission du Lab U, nous nous intéresserons à l'évolution des ports de Brest, de Rosario et de Mar del Plata en Argentine. Un travail sur la modélisation des connaissances mené par Bruno Rohoux, docteur en histoire des sciences et chercheur associé au Centre François Viette. À suivre dans le prochain numéro du Lab U. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur le site de Radio U et sur la page des bibliothèques universitaires de l'UBO.